Radio Prague, les informations.
Pas de changement dans la répartition des sièges dans le futur gouvernement tchèque. Découverte de la bactérie Listeria dans les produits alimentaires d'une entreprise de la ville de Jeseník. Les acteurs du théâtre national protestent contre les activités de leur directeur. L'accord de coalition entre le Parti civique démocrate ODS, le Parti chrétien démocrate KDU-CSL et le Parti des Verts ne sera signé probablement qu'au début de l'année prochaine. Les représentants des trois partis poursuivent les pourparlers sur la formation du nouveau gouvernement tchèque, selon le président du KDU-CSL, Jiří Čunek. Malgré les réticences de certains membres de l'ODS, il n'y aura probablement plus de changements dans la répartition des portefeuilles ayant été présentés juste avant Noël par le Premier ministre Mirek Topolánek au président de la République. La bactérie Listeria a été découverte par les hygiénistes de la ville d'Olomouc dans les produits de l'entreprise alimentaire Olay dans la ville de Jeseník en Moravie. Le service de contrôle hygiénique a fait suspendre la production dans cette entreprise jusqu'à son assainissement complet. Les acteurs du Théâtre national de Prague ont critiqué dans un document donné à la disposition des médias les dernières mesures prises dans leur théâtre par le ministre de la Culture, Martin Štěpánek. Ce dernier avait révoqué le directeur du théâtre, Daniel Dvořák, avait lancé un concours pour trouver un nouveau directeur et avait provisoirement confié la direction du théâtre à Jan Mrzena. Les acteurs demandent que Jan Mrzena soit remplacé par une personnalité plus compétente, que le concours soit mieux préparé et organisé d'une façon plus transparente. Si leurs revendications ne sont pas prises en considération, les comédiens sont prêts à lancer un préavis de grève. Une collection d'affiches du peintre Alphonse Mucha sera exposée successivement dans plusieurs villes japonaises. La série d'expositions s'étendra sur toute une année. La collection compte quelques 120 affiches, lithographies et autres objets d'art, dont surtout la célèbre série d'affiches conçue par Mucha, un des pères de l'art nouveau, pour la tragédienne Sarah Bernhardt. Météo. Ce jeudi, fête de toutes les Bohumila selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera variable avec des nuages dans les vallées. Les températures du diurne ne dépasseront pas 4 degrés et il neigera par endroits vers la fin de la journée. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Prague, merci de votre fidélité. Les Tchèques n'ont pas eu de gouvernement pour Noël. Vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, à Prague, la crise gouvernementale dure depuis l'été dernier. Près de 7 mois déjà que le pays n'a pas de gouvernement viable. Cette semaine, c'est surtout au désaccord sur le nom des potentiels futurs ministres que s'intéresse la presse tchèque, faute de mieux. Nous parlerons notamment dans un instant du cas Karel Schwarzenberg, pressenti pour prendre la tête de la diplomatie tchèque. Quels principaux changements attendent les Tchèques en 2007? Nouveaux tarifs, nouvelles lois? Réponse avec Alena Gebertova et Alain Slivinski dans cette émission. Et puis, nous terminerons par un dernier extrait de notre entretien réalisé avec le producteur de cinéma Norbert Auerbach, parti de Prague pour devenir l'un des rois d'Hollywood. Il nous racontera dans un instant son retour à Prague en 1989, juste avant la révolution de velours. Je vous souhaite une agréable écoute à toutes et à tous. À en juger par l'écho médiatique de ses propos, le président de la République a commis un faux pas. À la veille des fêtes de Noël, Václav Klaus s'était fermement opposé à la nomination du sénateur Karel Schwarzenberg au poste de chef de la diplomatie tchèque, sous prétexte qu'elle pourrait déstabiliser les relations tchéco-autrichiennes. Dans leurs éditions de ce mercredi, les quotidiens tchèques décortiquent le raisonnement du président, inacceptable pour beaucoup. Magdalena Hrozinková.
Karel Schwarzenberg avait été proposé au poste de ministre des Affaires étrangères par le Parti des Verts, qui devrait former avec le Parti civique démocrate, ODS, et les chrétiens démocrates, le nouveau gouvernement de coalition. Depuis l'annonce de sa composition, le premier ministre et chef de l'ODS, Mirek Topolánek, est sous le feu des critiques. Son parti lui reproche d'avoir perdu la bataille pour les portefeuilles ministériels très convoités des affaires étrangères et des finances. Le chef de l'État et président d'honneur de l'ODS est lui aussi en colère. Les journaux parlent même du conflit le plus grave et le plus visible entre un premier ministre et un président depuis 1989, en faisant allusion à l'ambiance glaciale de leur dernière conférence de presse commune. Au cœur de leur polémique, le risque d'échec de ce nouveau cabinet lors du vote de confiance au Parlement et le personnage de Karel Schwarzenberg, présumé être le futur chef de la diplomatie, personnage controversé aux yeux du président. Suit alors une déferlante de réactions des personnalités publiques. Dans les Lidové noviny, l'historien Martin Putna dresse le portrait de l'actuel sénateur Schwarzenberg, qui a certes vécu plus de 40 ans en exil en Autriche, mais qui n'a jamais renoncé à sa citoyenneté tchèque. Il rappelle l'histoire de la vieille famille aristocratique des Schwarzenberg, liée depuis le XVIIe siècle à celle des pays tchèques, d'une famille patriotique et antifasciste. L'éditorialiste de Hospodářské noviny met en relief l'engagement de Karel Schwarzenberg sous le communisme en faveur des dissidents tchèques et pour la protection des droits de l'homme en général. Enfin, le sénateur bénéficie d'un soutien infaillible de la part de l'ex-président Václav Havel, qui avait fait de Karel Schwarzenberg le directeur de sa chancellerie. Je m'attendais à ce que les vieux préjugés ressurgissent, c'était le commentaire du sénateur lui-même. Dans la presse, Karel Schwarzenberg s'explique avec calme, recul et concision qui lui sont propres à propos de tous les thèmes épineux sur lesquels il aurait été, selon ses adversaires, peu transparent, à commencer par l'intégration européenne, en passant par la centrale nucléaire de Temelín et en terminant avec les relations tchéco-cubaines. Tout cela avec une légère allusion aux opinions tranchées que sa personnalité suscite au château de Prague et ailleurs. À leur origine, constate-t-il sans pathos, une méfiance extrême des Tchèques contre l'aristocratie et les anciens exilés, ainsi que les conceptions différentes, politiques et humaines, de Václav Klaus et Václav Havel, qui divisent en quelque sorte la société.
Fin de l'année oblige, c'est le temps de dresser des bilans et de s'interroger sur ce qu'apportera la nouvelle année. Quelques précisions sur ce dernier point avec Alena Gebertova.
Les prestations sociales, les salaires, les prix du loyer et des énergies, le nouveau code du travail, le péage, autant de sphères principales parmi tant d'autres qui subiront dès la nouvelle année des changements. La vie sera-t-elle plus chère en 2007 ? La réponse à la question qui intéresse naturellement le plus les Tchèques n'est pas univoque. Elle le sera, certes, dans certains domaines et pour certaines catégories de personnes. Il y a lieu de parler en premier lieu de l'augmentation du prix du loyer, dit régulé, de près de 19% en moyenne par an. Une moyenne qui sera largement dépassée dans les grandes villes, à Prague notamment. Cette nouvelle disposition touchera entre 2,5 et 3 millions de personnes qui habitent les logements de ce type. C'est aussi le prix de l'électricité et un peu moins de 8% de hausse, ainsi que la redevance télévision qui augmenteront. De notre côté, les familles avec enfants et les handicapés verront s'améliorer leur budget grâce à la hausse prévue des prestations sociales. Les pensions retraite, le SMIG et les salaires vont également augmenter, le salaire moyen étant dorénavant supérieur à 21 000 couronnes, l'équivalent de près de 750 euros. Parmi les nouvelles mesures législatives qui entreront en vigueur en 2007, on notera, outre le nouveau code du travail qui ne cesse de nourrir des émotions et au sujet desquelles nous vous donnerons plus de détails plus loin, celle qui introduit des poursuites plus dures pour la violence domestique. Une mesure très sollicitée du fait qu'un Tchèque sur 10 semble avoir été exposé à ce genre de violence. Le 1er janvier aboutiront les efforts de longues années en faveur de la mise en valeur du système électronique de péage sur les autoroutes pour les camions. L'enrichissement de la caisse de l'État et plus de sécurité sur les routes, voilà ce que les experts espèrent de cette mesure si longtemps attendue. L'élargissement de l'Union européenne à la Bulgarie et à la Roumanie touchera aussi la République tchèque, qui avait décidé, en novembre déjà, d'ouvrir son marché du travail aux ressortissants de ces deux pays, sous réserve d'éventuelles mesures de protection. Selon les experts et les autorités compétentes, leur arrivée en masse n'est pourtant pas à craindre.
Aucune norme juridique n'a peut-être jusqu'ici été autant discutée que le nouveau Code du travail. Controversé, critiqué, il a quand même été adopté et entre en vigueur au début de l'année 2007. Des détails avec Alain Silvinski.
Un nouveau Code du travail, la République tchèque en avait bien besoin, car avec le changement de régime politique, les relations entre employeurs et employés ont changé depuis la révolution de velours de 1989. La discussion du nouveau Code du travail a duré des mois. En fin de compte, les sociodémocrates qui étaient au pouvoir ont réussi, grâce au soutien des communistes, à le faire adopter par la Chambre des députés. Depuis le début, la droite et les employeurs étaient contre le projet social-démocrate. Pourquoi ? Tout d'abord, il donnait trop de pouvoir aux syndicats, et d'autre part, il réduisait les pouvoirs des patrons tout en augmentant leurs obligations. Quels sont les principaux changements à remarquer ? La baisse du volume des heures supplémentaires, un délai plus court du congé présenté par l'employé, l'abolition du contrat de travail parallèle, l'augmentation du montant de la compensation en cas de licenciement pour certaines raisons. Un peu plus de détails sur ces changements. Ainsi donc, le contrat parallèle disparaît au profit d'un contrat de travail à plus courte durée. La différence, ce dernier est soumis aux mêmes règles qu'un contrat de travail normal, donc aussi un délai de renvoi de 2 mois et le paiement d'une compensation pour mise à pied suite par exemple à une réorganisation dans l'entreprise. Le contrat parallèle pouvait être résilié dans les 15 jours sans motif concret, une pratique largement utilisée par les sociétés. Le licenciement d'employés par une société en faillite, ou tout simplement parce qu'elle n'en a plus besoin, est aussi soumis à d'autres règles. La société est tenue de verser une compensation égale à 12 mois de salaire aux employés licenciés. Cela est valable aussi pour un nouveau motif de licenciement, les raisons de santé. Une entreprise ne peut plus conclure à un contrat stipulant plus d'heures supplémentaires que les 416 heures qui sont autorisées par le Code du travail. Par contre, il est possible d'établir un forfait pour la rémunération des heures supplémentaires qui ne fait pas partie du salaire de base. Le travail de nuit et pendant les jours fériés est aussi l'objet de modifications. Le nouveau Code introduit aussi la notion de compte du temps de travail. Ce dernier sera profitable aux travailleurs saisonniers, par exemple, chez qui le temps de travail était souvent supérieur à la norme. Enfin, les fonctionnaires des organisations syndicales sont protégés par le Code du travail et ne peuvent être licenciés en raison de leurs activités syndicales. Une partie du Code n'est pas passée à la Chambre des députés, le remboursement des premiers jours des congés maladie par l'employeur. Le nouveau Code du travail entre certes en vigueur, mais il n'est pas du tout à l'abri de nombreux amendements à l'avenir.
Suite et fin pour terminer cette émission de notre entretien avec Norbert Auerbach. Parti de Prague en 1939, Norbert Auerbach a fait une carrière exceptionnelle à Hollywood, prenant la tête des plus grandes sociétés de production de films et devenant même, un moment, conseiller du président américain Ronald Reagan. 50 ans après son départ de Prague avec sa famille pour échapper à la terreur nazie, Norbert Auerbach y est revenu pendant l'été 1989 pour être au chevet de son ami d'enfance gravement malade. Quelques semaines après son arrivée, commence alors ce qu'on appellera plus tard la révolution de velours, menée par le forum civique Občanské forum.
Moi, je dis aux Tchèques qu'ils n'avaient pas une révolution, mais une évolution, à part de quelques incidents qui étaient graves, mais qui n'étaient pas très graves. Ça s'est passé très calmement. J'ai passé une grande partie de mon temps, si vous voulez parler directement, mêlé de cette évolution, très révolution, en voyageant entre la France et la Tchécoslovaquie, j'ai fait imprimer les étiquettes qui avaient le petit homme, bonhomme qui riait pour le Občanské forum.
C'était le logo qui ressemble à un smiley, on pourrait dire.
Forum. Le logo était imprimé à Nice, à mes frais. Et je portais ça et je livrais ça à la Občanské forum parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques ni l'argent de fabriquer ça d'une manière correcte comme c'était fait. En plus, j'amenais de la couleur pour les machines Xerox pour qu'ils puissent
pour les photocopieurs.
Pour le photocopieur. Et ça au fond, c'était l'activité où j'ai assisté, si vous voulez, directement. Et je me rencontrais avec les gens du Obchanské Forum, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. C'était pas à ma place. Un revenu qui était regardé quand même un peu avec pas beaucoup de sympathie, voilà, que les gens disaient maintenant qu'on est tout d'un coup libre, vous venez nous aider, vous nous voir, où est-ce que vous étiez pendant les temps difficiles, donc il fallait rester discret. Après la révolution, plus tard, j'ai rencontré Havel et beaucoup de gens de la ODS. Mais je ne suis pas un homme qui s'intéresse beaucoup à la politique.
Et c'est avec Norbert Auerbach que prend fin cette émission. Je vous souhaite avec un peu d'avance une très bonne année et en profite pour souhaiter de la part de l'ensemble de la rédaction française une excellente année à Jarka Fikerlova, notre réalisatrice, dont c'est aujourd'hui le dernier jour. Merci beaucoup, merci pour tout Jarka et bonne chance pour la suite. Dans un instant, le programme en français continue.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute. En 1464, le roi de Bohême, Georges de Poděbrady, a soumis un projet dépassant son temps, celui de création d'une union pacifique pan-européenne, des États souverains égaux en droit, ayant le statut d'une charte pacifique universelle, on dirait le précurseur de l'Europe unie. Et ce sera le thème des derniers chapitres de l'histoire de l'année 2006, proposé par notre collaborateur Adeline Royer.
Si les villes et les princes ne reconnaissent pas de pouvoir supérieur dans ce monde et qu'ils se trouvent en conflit, devant qui peuvent-ils porter l'affaire? En 1306, Pierre Dubois imagine, pour assurer la paix sur le continent, un tribunal européen dont les décisions s'imposeraient à tous. En effet, le dernier avant-poste chrétien en Terre Sainte, Saint Jean d'Acre, est perdu en 1291. Pour le reconquérir, il faut réunir de nombreuses troupes, ce qui nécessite une paix durable entre les princes catholiques. L'Europe est ainsi définie négativement de par le rôle qui lui incombe en Terre Sainte. C'est également pour défendre la chrétienté que Georges de Poděbrady, roi de Bohême, de 1458 à 1471, proposera d'unir l'Europe. Poděbrady veut-il créer une véritable Union européenne ou ne cherche-t-il qu'à défendre des intérêts personnels? Si son projet est visionnaire, il s'agit surtout d'un énième avatar du conflit entre le trône et l'autel. En 1453, les Turcs conquièrent Constantinople et menacent désormais le cœur de l'Europe. C'est pour cela que Poděbrady propose une simple alliance militaire des princes européens avant de concevoir un projet grandiose de confédération chrétienne. En 1464, paraît son Tractatus Pacis Toti Christianiti Fiendae qui partage avec le projet de Pierre Dubois un même objectif et une même solution. Le recours à l'arbitrage international, assorti de sanctions armées pour qui le refuserait. Cependant, le projet de la couronne tchèque est bien plus élaboré. Rédigé par Antonio Marini, un atypique homme d'affaires de Grenoble, il précise qu'aux côtés d'une assemblée permanente dotée d'un pouvoir législatif et d'une cour de justice, figurerait un conseil suprême composé du roi de France, du roi de Castille, d'un prince allemand et d'une doge de Venise. Il s'agit déjà d'une forme de directoire des grands, un concept qui n'est pas prêt à disparaître du débat européen. L'architecture institutionnelle, qui respecte la séparation des pouvoirs, paraît elle aussi très moderne. Afin de ménager les susceptibilités, l'Assemblée se réunirait en alternance à Bâle, en Suisse, dans une ville française et dans une ville italienne. Les fondateurs de notre communauté européenne hésiteront ainsi à déplacer le lieu des rencontres régulières avant de limiter l'alternance à la seule présidence du Conseil. Deux émissaires sont envoyés à Dieppe, auprès du roi Louis XI, en qui Podiebrad plaçait ses plus grands espoirs. Alors même que la Hongrie, la Pologne et Venise ont déjà donné leur accord, le roi de France ne montre qu'une attention polie, ce qui enterre de fait le projet. Il semble que Podiebrad ait mal évalué la vraisemblance de son plan. Toutefois, si la diplomatie n'est pas inventée au XVe siècle, ce projet témoigne qu'on découvre alors l'étendue de ses ressources. Au-delà du péril turc, le projet de Podiebrad sert habilement des intérêts contingents et personnels, de la même façon qu'en concevant un projet d'union des princes européens, Pierre Dubois voulait défendre le roi de France Philippe le Bel face au pape Boniface VIII. Podiebrad, hussite, est élu le 2 mars 1458 par la noblesse de Bohême, en majorité catholique. Il tâche de relever son pays, sortir ruiné de la guerre civile et de rétablir le pouvoir monarchique. Face à lui, Pie II, qui monte sur le trône de Saint-Pierre le 19 août de la même année, est résolu à affirmer la puissance pontificale, durablement affaiblie par le grand schisme et ébranlée par la réforme hussite. Leurs relations sont d'abord cordiales, mais le roi de Bohême se refuse à relier sa foi hérétique. En effet, contrairement à Henri IV, le roi de France qui a pu se convertir pour conquérir Paris, Podiebrad ne pouvait pas renoncer à la réforme. Trois quarts des Tchèques étaient ultraquistes. Il ne pouvait simultanément s'incliner devant le pape et renforcer sa couronne. Cette contradiction ne tardera pas à apparaître. Les accords de Jihlava de 1436, qui ont intégré le hussisme modéré dans l'église romaine, n'ont pas été formellement signés par l'Église. Le 31 mars 1462, Pie II peut ainsi dénoncer les compactats. Dès lors, il apparaît clairement que la guerre est au bout du chemin. C'est pour l'éviter que Podiebrad propose son plan, qui permettrait d'éviter l'isolement de la Bohême, tout en affaiblissant la curie romaine. À cet égard, le chapitre financier est tout à fait révélateur, puisque les fonds communs serait prélevé sous la dîme de l'Église. Ainsi, pour faire l'Europe, on défait le Vatican. Podiebrad veut ainsi apparaître comme le défenseur du droit de tous les princes contre la théocratie romaine. En évoquant le péril musulman, il détourne l'attention internationale de l'épineuse question tchèque et défend son trône contre une très probable déposition. Au fait de la question tchèque, puisqu'il est l'auteur d'une histoire de la Bohême, le pape Pie II reconnaît que les ultraquistes ont une bonne chose à leur actif, ils aiment le savoir. Il éprouve une certaine sympathie pour cette tentative d'unifier le continent, qu'il est l'un des premiers à considérer comme sa patrie. C'est peut-être ce qui le retiendra de jeter l'anathème sur Podiebrad. Avec le décès de Pie II, la situation du roi hussite se dégrade rapidement. En 1468, après que le pape Paul II eut jeté l'anathème sous Podiebrad, le roi de Hongrie, Matthias Corvin, se porte à la tête d'une croisade contre cette Bohême enivrée d'erreur. Victorieux, il se fait élire roi de Bohême le 3 mai 1469 et il domine ainsi les régions catholiques de la couronne tchèque, Podiebrad ne conservant son autorité que sur les régions à majorité hussite. Pour assurer l'unité du royaume, Podiebrad conclut un accord avec le roi de Pologne, Casimir IV. À la mort de Podiebrad, la diète tchèque devrait élire à Jagellon, la dynastie régnante en Pologne. Le seul résultat concret de l'Europe de Podiebrad sera cette alliance polono-tchèque. Le projet de Podziebral a d'abord été conçu pour épargner au roi Hussite une déposition papale. L'inertie des princes et l'activisme de Rome l'anéantirent. Pour autant, il n'en est pas moins précurseur. Derrière la façade de la République chrétienne se cache une Ligue des princes, un embryon d'Europe des patries, qui s'éloigne du rêve universaliste, centré autour de l'empereur ou du pape, dans le sens d'une acceptation de la prééminence des États. Podziebral considère l'Europe non pas tant comme une expression géographique ou une communauté chrétienne, que comme une communauté politique qui doit s'unir pour survivre. S'unir ou mourir, comme disait Gaston Rioux, c'est l'alternative qui conduit souvent à l'idée d'unir l'Europe.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern